Nous allons faire la lecture de l'épître de Jacques, frère du Seigneur. Il a donc connu le Christ comme un frère à Nazareth. Et après la conversion de ce Jacques, il est devenu donc le pasteur principal de l'Église de Jérusalem. Et son épître est très pratique, savoureuse. Et j'aimerais faire la lecture de Jacques chapitre 4, verset 1er. Jacques 4, verset 1er. D'où viennent les luttes ? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. C'est important de parler de ces choses pour que notre chemin chrétien ne soit pas flou, mais que nous sachions bien quelle est la volonté de Dieu pour nous. Quand l'apôtre parle de passion, nous l'avons lu au verset premier, « N'est-ce pas vos passions ?» Les passions, dans le grec, ce sont les plaisirs. Des plaisirs qui prennent de l'importance, qui éloignent notre attention de Dieu, qui envahissent notre cœur et qui vident notre porte-monnaie et qui nous occupent l'esprit. Ces passions, ces plaisirs, je ne vais pas les comparer à une flèche qui traverse notre cœur et qui fait mal. Les plaisirs, ça fait pas mal. Je vais plutôt les comparer à un filet très doux, très calme, qui descend sur nous et qui nous enveloppe et qui nous attire, prisonniers. C'est une épreuve pour notre foi que les choses de la terre, les plaisirs qui enveloppent et qui conduisent nos décisions et nos vies. Mais, me direz-vous, est-ce qu'on peut s'opposer au plaisir? N'avons-nous pas du plaisir à regarder les beautés de Dieu, la musique, la création, le jardin du Tabor, l'église du Tabor? N'avons-nous pas du plaisir avec nos familles, nos enfants? Salomon disait « Mon cœur prend plaisir à tout mon travail. » Nous avons du plaisir dans ce que nous faisons. Dieu même, en créant les étoiles, les chenilles, les lapins, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon, agréable. Il y a un plaisir de Dieu. Mais Dieu met des limites au plaisir de la terre. D'abord, il a créé le sabbat. Dans le sabbat, on arrête, on ne court plus, on s'arrête pour penser au Créateur. On arrête de regarder la création pour regarder le Créateur. Et puis, le Seigneur, en nous appelant, il veut élever nos regards vers une autre patrie. Pas rester dans les plaisirs de cette patrie terrestre, mais nous élever, comme disait Abraham, vers la patrie céleste. Et puis, dites-moi, savons-nous vraiment vivre dans l'abondance des plaisirs? Quand les plaisirs abondent encore, chaque jour, chaque semaine, nous oublions notre fragilité, nous oublions que nous sommes mortels, nous oublions la souffrance des autres, la fragilité des autres, parce que pour nous, alléluia, ça va bien. Voilà ce que nous pensons. Et puis l'abondance des plaisirs de la terre peut nous faire devenir égoïstes, peut nous faire devenir envieux. Il nous en faut toujours plus. Les plaisirs de la terre, c'est une tyrannie. Nous sommes esclaves de toujours plus. L'apôtre Pierre écrit que les plaisirs, les convoitises font la guerre à l'âme. Ils étouffent la parole de Dieu. On n'a plus de temps, on n'a plus la tête, on n'a plus le cœur à réfléchir à la parole de Dieu. La Bible dit également dans les paroles de Jésus que les plaisirs, les convoitises endorment l'âme, anesthésient l'âme. C'est Mammon, c'est le Dieu de ce siècle, dont le chef d'orchestre, c'est Satan. Le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous résiste à ce plaisir qui frappe à notre porte. C'est pourquoi en nous, il y a parfois des luttes, des combats. Le Seigneur veut nous discipliner, nous éduquer. Il veut nous apprendre à bien vivre selon ses commandements. Je pense que les plaisirs du monde, c'est manquer notre vocation. Notre vocation, quand nous sommes devenus chrétiens, baptisés, notre vocation, c'est Jésus-Christ. C'est l'Église, l'Église qui a besoin, l'Église qui passe des temps de souffrance. Mais si nous avons dans notre cœur tellement de plaisir, nous serons sourds, aveugles devant les besoins de l'Église, les besoins du monde. Jacques emploie un mot que je trouve un peu fort. C'est toujours un petit peu le principe de Jacques qui nous bouscule. Il dit « Vous êtes, par tous vos plaisirs, vous êtes meurtriers. » Je ne vous dirai jamais ça. Parce que par les plaisirs et par les divertissements, eh bien peut-être que l'Église est un peu délaissée. Un frère qui a besoin est délaissé. Une sœur qui attend est délaissée. Et Jacques dit, vous tuez quelqu'un. À force de penser à vous, à votre bien-être, à vos plaisirs, à vos passions. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez le riche de la parabole de Jésus qui menait chaque jour, il n'y avait pas de week-end, mais c'était toujours dimanche, chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. et il ne voyait pas Lazare qu'il enjambait chaque matin, chaque soir, qui était là couché, couvert d'ulcères et qui ne mangeait rien, même pas une miette. Eh bien, ce riche, c'est un criminel. Envahi par ses plaisirs, il n'a pas vu un homme qui attendait quelque chose. Les enseignements de Jésus sur les richesses et sur les plaisirs sont très forts. Et Jacques, qui est le frère de Jésus, les reprend. Le riche, dit Jacques, se flétrira dans toutes ses entreprises. Un jour ou l'autre, ça ne le mènera pas loin. Les plaisirs aujourd'hui, les divertissements, font partie de la culture moderne. Mais faisons bien attention à nous. C'est une contre-valeur. C'est une apostasie silencieuse. Tout doucement, on pousse Dieu hors de sa vie. On n'a pas le temps. On a du plaisir ailleurs. On pousse Dieu hors de sa vie. C'est une apostasie silencieuse. Que dit l'apôtre Paul ? Dans les derniers temps, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ce qui veut dire que ces plaisirs qui sont aujourd'hui la mode sont un signe de la fin du monde. Les hommes mangeront, boiront, s'amuseront, planteront, bâtiront, gagneront et ne penseront plus à Dieu. Mais attention à nous, il y a une culture du plaisir, même dans les églises. Il y a des faux prophètes, disait l'apôtre Pierre, qui s'introduiront dans les églises et qui promettront la liberté, une vie libre, épanouie, sans combat, sans renoncement, sans donner, sans douleur, sans pleurer, refus de la souffrance, refus de ce qui coûte, refus de la croix. Voilà ce que diront les faux prophètes, ce qu'ils disent aujourd'hui. Ça s'introduit dans l'Église. Et quand on a un cœur rempli des plaisirs, des passions du monde, on ne prie plus, on ne sait plus prier. Et quand nous prions, dit Jacques, c'est pour recevoir encore plus de plaisir. Encore plus de plaisir. Pour soi-même. Vous demandez littéralement, Jacques dit, vous demandez pour dépenser dans vos plaisirs. Donne-nous du beau temps aujourd'hui pour qu'on puisse partir dans nos plaisirs. Donne-nous de l'argent pour qu'on puisse aller dans nos plaisirs. Donne-nous de la santé pour qu'on puisse aller dans nos plaisirs. Vous demandez pour aller plus dans vos plaisirs. Nos prières ainsi sont infectées par la mentalité moderne. Nous ne voyons plus les vrais biens, le vrai combat de l'Église. Nous ne recevons pas, dit le Seigneur. Il ne faut pas croire que si quelqu'un vit dans les délices, dans les voluptés, tout lui sourit. Quand on lit l'épître de Jacques, il ne faut pas croire que c'est absolument une bénédiction. Ne croyez pas que recevoir, avoir tout qui sourit, c'est forcément un chemin, alors qu'on ne pense plus aux autres, c'est forcément un chemin de Dieu. Jacques dit, vos richesses seront pourries, votre argent sera rongé par les teignes. Et il dit, Jacques, nous disons bienheureux plutôt ceux qui ont souffert patiemment, comme Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Il faut donc bien connaître le chemin de Dieu. Il faut avoir une intelligence spirituelle, une intelligence du cœur, savoir où on met les pieds, savoir ce qu'est vraiment la vie avec le Seigneur Jésus. Je pense à Lot. Quand Lot a vu Sodome et Gomorrhe, un paradis sur terre, il a dit, c'est un jardin de Dieu. Mais c'était des hommes mauvais, et il en a perdu sa femme, et ses filles, et ses biens, et sa moralité, et sa descendance, pour toujours. Et celui qui aurait vu Joseph dans sa prison, le Joseph de l'Ancien Testament, peut-être qu'il aurait dit, « Pauvre garçon, je le plains, il est bien misérable, il n'a pas réussi. » Mais la Bible dit, « L'Éternel était avec Joseph dans sa prison. » Amen. Il faut discerner, il faut de l'intelligence du cœur. Que dit Jacques sur les plaisirs ? Adultère que vous êtes. Il prend meurtrier, il prend le mot adultère comme s'il voulait dire en recherchant tous ces plaisirs, vous commettez des infidélités à Dieu. Vous n'êtes pas assez heureux avec Dieu. Vous n'êtes pas satisfait de Dieu. Dieu ne vous suffit plus. Il faut que vous alliez ailleurs. Vous êtes donc adultère. Méditons bien ces choses, frères et sœurs, afin que notre cœur ne soit pas seulement chantant, mais qu'il soit obéissant aux enseignements de Dieu. Amen. Aimer les plaisirs, c'est peut-être renoncer à porter sa croix. Parce que quand on ne recherche que les plaisirs, on ne veut pas de ce qui ne fait pas plaisir. Et porter la croix, subir la moquerie, les abandons, les calomnies, ça ne fait pas plaisir. Quand on recherche que les plaisirs, on n'attend plus les choses d'en haut. On ne recherche plus la grâce chaque jour. On pense qu'on a tout. On a ce qui fait du bien, mais en fait, on n'a rien. On se trompe sur soi-même. Frères et sœurs, Dieu nous veut tout entier à lui. Dieu ne veut pas que nos cœurs soient partagés. Dieu ne veut pas que l'amour du monde nous détache de ses bras. Dieu veut que ses enfants vivent quelque chose de grand, de beau et d'unique, et ça ne dure pas longtemps, sur la terre, avec Dieu. La vieillesse nous surprendra, on ne se rendra pas compte, la mort nous prendra, et on aura probablement des regrets d'avoir mal vécu avec Dieu. Dieu nous réclame parce qu'il est jaloux. Il est bien parlé ici de la jalousie de Dieu. Il nous veut tout à lui. Il ne veut pas qu'on partage. Il ne veut pas partager avec d'autres, surtout pas avec Satan. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde de festivité, d'amusement, divertissement. Les conditions de notre vie changent. Il y a déjà 50 ans, 70 ans, il n'y avait pas beaucoup de divertissement. On allait au champ, on allait à l'usine, on travaillait jusqu'au samedi soir, et le dimanche, on avait un temps pour Dieu, on allait voir la grand-mère, les oncles et les tantes, et puis le lundi matin, on recommençait. C'était cela, il n'y avait rien qui pouvait nous distraire. C'est un peu dur quand même. Mais aujourd'hui, nous avons 10 000 choses qui nous empêchent d'accomplir l'essentiel. Prenons garde, nos conditions de vie changent. Mais ce sont des temps d'épreuve pour l'Église. Ce sont des temps d'épreuve pour les couples chrétiens, pour les parents chrétiens, pour les jeunes. Les plaisirs sont une porte ouverte au diable qui nous propose quoi ? les richesses de la terre. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Jésus ? Je te donnerai toutes ces gloires si tu te prosternes devant moi. Le diable n'a proposé à Jésus que du plaisir, que du bonheur. Parfois, les jeunes me disent, c'est que du bonheur. Transforme ces cailloux en pain au chocolat. Là, j'exagère un peu, non ? Jette-toi et tu ne vas pas tomber, tu ne pourras jamais te faire mal. Tu es incassable. Et puis tout ce que j'ai là, c'est à toi, tous les plaisirs sont à toi. Que du bonheur ! Le diable fait la même chose avec nous. Ce qu'il a fait avec Jésus, il le fait avec moi et avec vous. Parce que le diable veut nous soumettre. Il veut soumettre les enfants de Dieu à sa volonté. Amusez-vous. Vous embêtez pas. Soyez pas tatillon. Dieu, on verra bien. Voilà. Il veut soumettre les enfants de Dieu à l'assoupissement des vierges folles et des vierges sages. Tout le monde y est passé. Je termine en vous disant, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Cela veut dire que la présence de Dieu dépend de nous. Approchez-vous et Dieu s'approchera. Ça dépend de notre désir, de notre volonté. Mais on ne peut pas s'approcher de Dieu sans nettoyer son comportement, son langage, son cœur. Dans le livre du prophète Ésaïe, le Seigneur dit : vous désirez l'approche de Dieu, mais vous vous disputez. Vous voulez l'approche de Dieu, mais vous vous disputez. Vous ne pourrez pas avoir l'approche de Dieu si vous disputez votre frère, votre sœur. Mais ce matin, approchons-nous du Seigneur. Amen. Recherchons-le dès demain, aujourd'hui, tous les jours de la semaine. Et je vous assure que, à l'approche de Dieu, les plaisirs de la terre pâlissent. Oui ou non ? Amen. Vous savez quel est le travail du sculpteur ? Comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, sont des gens qui enlèvent. Ils enlèvent de la pierre. Ils en enlèvent. Pour qu'il ne reste plus qu'une pierre qui ressemble à une statue de Moïse ou de David. On enlève la pierre, on enlève ce qui est en trop. Quand on s'approche de Dieu, le Seigneur enlève ce qui est en trop dans notre vie, ce qui n'est pas utile, ce qui étouffe, ce qui envahit la tête, le cœur, les sentiments. Alors, il faut s'examiner ce matin. J'ai envie de m'examiner. Soyez dans le deuil, attristez-vous. C'est contraire au plaisir, ça. Il faut savoir pleurer sur soi. Il ne faut pas savoir ricaner du matin au soir. Il faut savoir se lamenter sur soi-même. Quand je lis des biographies des hommes de Dieu du 19e siècle, du 18e, je pleure un peu sur moi-même. Je me dis, Seigneur, où est-il ce temps ? Où était cette consécration ? Soyez dans le deuil et les larmes. Seigneur, on ne fait pas bien les choses. Je pense que le réveil que nous voulons tous, que je recherche, pour lequel je prie, vous aussi, le réveil ne commence pas dans la rigolade, ne commence pas dans les champs, le réveil commence en prenant conscience de notre pauvreté. Que disait Ésaïe ? Malheur à moi, mes lèvres sont impures. Je dis du mal de mon frère, je dis du mal des autres, malheur à moi. » Et Dieu était devant lui. Que dit l'apôtre Paul ? « Misérable que je suis, quand je veux faire le bien, je fais le mal. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Malheur à moi. » Frères et sœurs, que le Seigneur éteigne tous les plaisirs inutiles. Amen. Le temps perdu, l'énergie perdue, qu'il les éteigne comme un feu d'épine. Je vous dis cela parce que je crois que le Seigneur, dans cette église, veut nous élever pour qu'on soit une lumière dans la ville. Des centaines venues depuis un mois et demi et d'autres qui frappent à la porte. Vous ne croyez pas qu'il faut allumer nos lampes ensemble ? Amen. Et être des chrétiens de tout cœur. Je vous dédie ces choses ce matin parce que je ne veux pas vous imposer une contrainte, mais je veux vous montrer ce qui convient le mieux pour votre vie chrétienne. Restons attachés au Seigneur. Accomplissons ce ministère chrétien dans notre courte vie. Et les autres trouveront en nous des hommes, de femmes, de conseil. Trouveront en nous des chrétiens, des frères et sœurs qui portent les autres. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et le Seigneur, nous l'avons lu, et le Seigneur vous élèvera. Que Dieu nous élève. Que l'on voit des guérisons et des miracles au milieu de nous. Que l'on voit l'Esprit de Dieu faire sa marche dans nos cœurs. Et que tous ensemble, nous devenions saints, justes, miséricordieux, parfaits selon le cœur de Dieu. Amen. Nous prions ensemble. Ôte Seigneur, ce qui n'est pas utile, ôte ce qui nous encombre, ce qui nous pèse, ce qui charge notre vie. Ôte les péchés et les fardeaux qui alourdissent notre marche, qui obscurcissent notre regard, qui envahissent nos pensées et nos sentiments. Fais de nous des enfants de lumière. Fais de nous des femmes et des hommes qui reflètent l'amour du Christ partout où nous sommes. Tu nous appelles à marcher sur les hauteurs. Tu nous appelles à monter à la montagne de Dieu. Et cette montagne, ce sont les Écritures, qui nous donne d'être semblables à Jésus-Christ. Purifie-nous, Seigneur. Donne-nous de marcher d'une manière digne. Ôte le mal de nos maisons, de nos bouches, de nos sentiments. Fais de nous des enfants de ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes ton temple. Ce matin, tu es au milieu de nous. À Dieu soit la gloire pour son œuvre. À Dieu soit la louange. Je t'offre mon cœur, ma vie, chaque jour, l'inconnu, ce qui est difficile, ce qui semble facile. Nous t'offrons tout. À toi l'honneur. Amen.